Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On arrive au numéro 774 sur le grand thème de l'Église comme sacrement. Et on va développer le sujet et essayer de définir les mots. Qu'est-ce que veulent dire les mots mysterium et sacramentum ?
Alors, comme le remarque très bien le catéchisme, il y a d'abord à la base dans la révélation un usage du mot mysterion en grec, tel que saint Paul l'utilise par exemple en parlant de ce grand mystère, hein, Éphésiens 5, 32, que nous avons rencontré une des dernières fois. Ce grand mysterion a été traduit soit par mysterium, parce qu'on parlait des mystères dans les traditions cultuelles de l'époque de l'Empire romain. Il y avait les mystères de l'Éleusis, les mystères d'Éphèse, etc. Donc c'était un mot qui était un peu familier. Et puis d'autre part, il y avait le mot sacramentum qui rappelait une appartenance comme un soldat qui était marqué par un sceau. Dans l'armée, dans la légion, on marquait, comme nous marquons de nos jours nos animaux, malheureusement, c'était une forme qui humiliait un peu la dignité humaine, mais on marquait les légionnaires pour qu'ils ne fuient pas leur légion, donc ils étaient marqués avec un sceau, et cela donc a donné à penser comme des analogies pour parler de notre appartenance à ce mystère, ce mysterium de l'Église. Et les pères latins ont utilisé donc le mot mysterium, sacramentum et aussi le mot sos qui vient du sphargis en grec pour connoter à la fois l'appartenance et l'appartenance à un monde invisible, à un monde surnaturel. Donc c'était un langage un peu tout nouveau, et il a fallu mettre un petit peu de l'ordre dans ces expressions. Le mot sacrement rappelant quelque chose qui est sacré, sacra voulant dire sacré, et donc ce sont ces mots qui se sont petit à petit ajustés pour décrire une réalité toute nouvelle auquel on n'était pas habitué dans le monde latin, dans le monde païen. Et l'Église s'est, d'une certaine manière, agrandie dans ce monde païen qui s'est converti très largement sous l'effet de la prédication apostolique. Et du coup, ce vocabulaire s'est petit à petit, dans le fond, mis en place pour désigner ces réalités à la fois visibles et invisibles.
Le numéro 774 nous rappelle que le premier sacrement, c'est le Christ. Donc on est habitué à entendre parler des sept sacrements, mais là, le catéchisme nous rappelle que le premier sacrement, en particulier du salut, le sacrement du salut, c'est le Christ.
Oui, effectivement, parce que, comme dit le même passage en citant saint Augustin, il n'y a pas d'autre mystère que le Christ. Et dans le fond, c'est le sommet de la révélation. Tout l'Ancien Testament était centré sur l'annonce du Messie, la venue de ce Messie qui allait enfin réaliser cette union entre Dieu et son peuple, ramener le peuple de Dieu vers sa patrie. Et c'est le Christ, loin du Père, et cette onction dont on parlait juste avant avec le sphargis, le sceau qui est donné au moment du baptême, c'est déjà le sceau du Christ, c'est déjà une appartenance à lui. C'est pour cela que quand on parle des sacrements dans l'Église, ils se réfèrent tous au Christ. Il n'y a pas de distance à faire entre les sacrements et le Christ lui-même. Dans le fond, nous faisons un acte de foi dans chaque sacrement pour recevoir le Christ.
La définition du mot sacrement, c'est signe visible d'une réalité invisible. Donc, si le Christ est le sacrement du salut, ça veut dire qu'il est le signe visible de cette réalité invisible qu'est le salut. Donc, Est-ce qu'on peut dire que quand on voit ou quand on connaît le Christ ou quand on l'entend, on accède au salut? C'est ça? Est-ce qu'on peut résumer notre vie chrétienne, nous qui cherchons à être sauvés, à partir du moment où on voit le Christ, on accède au salut?
Alors, voir le Christ, c'est certainement déjà un point positif pour, je dirais, recevoir le salut, mais encore faut-il, je dirais, saisir la main qui nous est tendue. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la dimension du Christ qui se manifeste à nous, à travers l'Église, il y a aussi cette réponse que l'homme doit réaliser, doit faire, par rapport à cette main tendue. Je pense en particulier à deux passages importants de l'Écriture, 1 Timothée 2, 5, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est l'aspect, si vous voulez, de cette présence du Christ, toujours visible dans son Église et toujours attirante et tendant la main. Et d'autre part, l'Épître aux Hébreux, qui dit que le Christ n'est cause du salut qu'à ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 9. Et dans ces deux passages, si je les prends tous les deux en même temps, je comprends à la fois que la visibilité du Christ qui nous tend la main présente est toujours potentiellement possible, mais il faut encore cette réponse de l'homme qui saisit la main du Christ et qui se fait sauver, un peu comme Pierre qui est dans les eaux du lac de Génézareth, qui demande au Christ « Est-ce que je peux m'avancer vers toi ?» Il voit le Christ, donc il est saisi par un appel à le suivre, à marcher sur les eaux comme Jésus. Et puis, il regarde les flots, il ne voit plus seulement le Christ, il se laisse prendre un peu par le danger du lieu, il coule, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il crie ?« Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus lui tient la main, ce qui est dit explicitement dans le texte des synoptiques, et il le remet dans la barque. Et donc, c'est ça qui est le salut. C'est ça qui est le mouvement « Seigneur, sauve-moi ». Et nous devons comprendre que quand nous rentrons dans une église, quelle qu'elle soit, une église d'ici-bas, l'église de nos campagnes et de nos villes, eh bien, nous y entrons, c'est pour être saisis par le Christ, pour recevoir le salut. Et ce n'est pas seulement une question de rite ou de sept sacrements qui seraient des réalités à chercher pour elles-mêmes. Nous les cherchons toujours en vue du Christ.
En vue du Christ.
Nous sommes saisis déjà par lui, attirés par lui. Et ces sacrements sont les instruments qu'il a institués pour que nous soyons unis à lui si nous le faisons toujours dans la foi. Nous nous souvenons que combien de fois Jésus ou les premiers apôtres regardaient ceux qui se dirigeaient vers eux, ceux qui étaient attirés par eux, et Jésus dit par exemple « ta foi t'a sauvé hein ». Ou Saint Pierre ou Saint Paul dit « voyant que celui-ci avait suffisamment de foi, il lui dit « va, lève-toi et sois guéri ». Il faut la réponse de la foi. Et sans cette réponse de la foi, évidemment, le Christ a beau être visible dans nos églises, dans nos processions, avec toutes ces manifestations que les hommes ont dressées en son nom, toutes ces constructions, toutes ces belles manifestations de la visibilité du royaume, encore faut-il que la foi puisse être ainsi actualisée pour que le salut ait lieu.
Ces sept sacrements dont tu parles, donc ils transmettent, ils continuent l'œuvre du Christ. Mais on voit bien qu'on ne peut pas accéder à ces sept sacrements sans passer par l'Église. Il nous faut un prêtre, il nous faut une Église, il nous faut un rituel, il nous faut... Et est-ce que c'est pour ça, mais c'est une phrase étonnante au 774, qu'on dit que l'Église contient et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est très fort, parce que ça veut dire que le Christ est le sacrement du salut, mais qu'on ne peut pas passer par un autre moyen que par l'Église.
Et oui, c'est ce que Jésus a voulu, et nous évoquions dans une émission précédente cette parole de Jacques Bénigne Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, et on le voit particulièrement avec ces sept sacrements, qui se composent de trois sacrements d'initiation, de passer donc de non-chrétien à chrétien, c'est le sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, et puis les sacrements d'État, qui sont l'ordre et le mariage, et puis les sacrements de guérison, hein, la pénitence pour l'âme, et le sacrement des malades pour le corps. Donc c'est très cohérent, c'est très pédagogique par rapport à notre humanité, qui a besoin de commencer, qui a besoin de se stabiliser dans un état, qui a besoin aussi d'être guéri parce qu'il se blesse au cours de son cheminement. Et Jésus a été particulièrement attentif aux petits, aux pauvres, aux pécheurs, et les a guéris, leur a proposé des mouvements donc, de sortie de leur maladie dans leur âme ou dans leur corps. La maladie de l'âme, c'est le péché, et toutes les maladies souvent conséquentes qui sont dans le corps.
Ce paragraphe nous montre à nouveau que le Christ et l'Église sont vraiment inséparables.
L'Église et le Christ sont totalement inséparables et c'est une énorme erreur ceux qui disent « moi j'accepte le Christ mais je ne veux pas l'Église ». C'est complètement incohérent avec le Nouveau Testament, c'est ignorer totalement les Écritures, c'est ignorer toute l'histoire de l'Église, c'est d'être complètement dans un aveuglement, il faut beaucoup prier. Pour ceux qui sont dans cette situation, je dirais, d'opposition par rapport à l'Église et d'une sorte de fausse adhésion au Christ. C'est comme si je coupais le Christ en deux, hein, je coupais la tête dans le fond. C'est une attitude digne des pires moments de la terreur au moment de la Révolution française.
Oui, on est souvent aveuglé par le côté très humain de l'Église. Il ne faut pas oublier tout ce... Enfin, il faut surtout réapprendre à voir le côté divin.
Et à discerner, finalement, les traits du Christ qui sont toujours là et toujours bien vivants pour rejoindre chacun des cœurs de nous et de tous nos auditeurs.